Bonjour à toutes et à tous, Christophe Jubien pour vous accueillir sur La Route Inconnue, le magazine de Radio Rancière entièrement dédié à la poésie qui s'écrit, se publie et se lit aujourd'hui. La Route Inconnue est réalisée en partenariat avec l'excellente revue de poésie Décharge qui offre chaque trimestre une vision quasi panoramique sur la production poétique contemporaine de langue française, ce qui n'est pas rien, vous en conviendrez. À propos de Décharge, eh bien vous aurez le plaisir d'entendre en seconde partie d'émission la voix de son directeur de publication Jacques Morin qui nous présentera sa revue des revues audio mensuelle. Dans la foulée de Jacques Morin, les chroniques de Louis Dubos et de Jean-Claude Touzeil et un poème extrait du dernier recueil d'Alain Boudet compléteront cette édition de La Route Inconnue dont l'invité d'honneur s'appelle Thierry Roquet. Mais vous pouvez aussi l'appeler le cow-boy de Malakoff, du nom d'un de ses nombreux livres de poèmes. Thierry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'une vingtaine de livres chez des éditeurs aussi recommandables que Le Pédalo Ivre, Le Cactus Inébranlable et Gros Textes qu'on ne présente plus. L'un de vos derniers livres, dont je donnerai des extraits tout à l'heure, est d'ailleurs paru dernièrement aux éditions Gros Textes sous le titre « À la périphérie du monde », entre parenthèses, par la ligne 13 du métro. Bref, on l'aura compris, vous êtes un banlieusard, quoique né en 1968 à Rennes dans l'Ille-et-Vilaine. Est-ce que vous avez encore des souvenirs, des bouffées de votre enfance bretonne?
Ah oui, énormément même.
Énormément.
Et ça, sans, pour ne rien te cacher Christophe d'ailleurs, c'est peut-être l'objet d'un futur bouquin chez Gros Texte.
Ah. Alors... De ton enfance, alors on va se tutoyer, de ton enfance, le peu que je sais, ben je le tiens de toi, je cite un extrait paru sur le site de la revue en ligne Recours au poème. « Mon passé, ma mélasse, ma chambre à l'étage, au cerisier du jardin, chemin poussiéreux, nos vélos sur les gravillons, deux doges bleus de ma mère, regard froid de mon père, bouille cabossée de mon frère, les longs dimanches d'ennui, et tout le reste qui ne fait pas une vie. » C'est un reflet fidèle de votre enfance?
Selon mon point de vue, en tout cas.
Ouais. Alors, cette enfance, alors, est-ce que tu peux nous en parler? C'était une enfance rêveuse, studieuse, sportive, ou les trois?
Rêveuse, oui. Studieuse, oui et non. On va dire obligée, mais ça ne me plaisait pas. Et sportive, oui, j'adorais jouer au foot et j'aurais voulu être footballeur professionnel d'ailleurs à une époque.
Voilà. Et tu en aurais eu les moyens. Tu jouais bien. Tu jouais à quel poste?
Alors je jouais ailier droit quand j'étais jeune. Mais bon, j'avais pas le niveau évidemment. Mais
ailier droit, ça c'est un poste évidemment où on brille généralement. Hein.
Oui, on essaie de faire briller aussi l'avant-centre pour qu'il marque des buts et puis. Alors... J'avais une bonne petite pointe de vitesse. Donc, ouais. Ça me plaisait bien.
Le football a donné lieu à un livre d'ailleurs, coécrit avec François-Xavier Farine, qu'on salue ici. C'est Pleine Lucarne.
Tout à fait.
Donc ça a été vraiment une grande affaire, le foot, dans ton enfance?
Ah oui, complètement. Ouais. Ah oui. Oui. C'était vraiment un moyen d'évasion, beaucoup plus que la lecture. J'ai découvert la lecture en fait bien plus tard. Ça a d'abord été le football. Hein.
D'abord été le football. Alors la lecture, il y avait quand même des livres à la maison?
Il y avait des livres, mais il y en avait assez peu en fait.
Oui.
Ma mère était pas une grande lectrice. Mon père n'était plus un grand lecteur. Il l'a été dans sa jeunesse.
Ouais.
Il a été nourri aux lettres classiques, notamment. Mais après, ils se sont débarrassés de la plupart de leurs livres.
D'accord. Et alors, comment la lecture a déboulé dans ta vie?
Ça a commencé par l'écriture, en fait. J'ai commencé à écrire des poèmes à l'âge de 13-14 ans. Je crois que le premier poème est un poème imposé pour l'école, d'ailleurs.
Ouais.
C'était sur la guerre 14-18. Et puis, ça m'a plu. Et c'est ensuite que je suis venu à la lecture. Je suis d'abord venu à l'écriture, ensuite à la lecture.
Ça, c'est curieux.
C'est en allant dans les librairies à Paris.
Ouais. Et tout de suite, la poésie, donc. Ça a été une révélation, le poème?
Ah non. C'est pas du tout la poésie tout de suite.
Pas du tout.
C'était d'abord les romans, les journaux intimes, un peu de philosophie, et également les nouvelles.
D'accord. Alors, les auteurs de chevet de l'adolescent Thierry?
Alors, l'adolescent, attends que je me souvienne. Alors, un des premiers, c'était, je crois, Albert Camus. Il y a eu Kierkegaard.
Kierkegaard,
oui. En poésie, je lisais quand même quelques classiques français. J'aimais bien Alfred de Musset.
Ouais.
On parle bien de l'adolescence. Hein.
On parle de l'adolescence, parce qu'après, évidemment, je crois que l'Amérique a débarqué dans ta vie.
Exactement. Toujours pareil, en librairie, j'ai découvert complètement par hasard, comme ça je ne le connaissais pas du tout, Charles Bukowski, ça a été un déclic.
Ça a été un déclic. Ouais, tu cherchais une expression comme ça, moderne, directe, pour exprimer
Voilà, exactement.
une émotion
Ouais, quelque
poétique.
chose qui permette de défouler sans entrave.
Oui. Et tu continues à décrire, donc, je veux dire que tu n'as jamais cessé d'écrire depuis l'âge de 14-15 ans, ou il y a eu un moment de vide, parce que généralement, on peut écrire comme ça à l'âge adolescent, et puis après on arrête, et on peut reprendre. Non, tu as toujours écrit depuis l'âge de 14 ans?
Non, non, tout à fait. Comme tu l'as indiqué, il y a des moments où on arrête, et bien il y a
Ouais.
des moments où il y a un long moment où j'ai arrêté, moi.
Ouais.
Je me tournais beaucoup plus vers la chanson, la musique. Je composais des airs, je faisais un petit peu de piano, enfin de synthé. J'aurais aimé être chanteur aussi, mais bon.
Footballeur, chanteur et poète finalement.
C'est
Alors
possible.
Bukowski, on peut évidemment déceler comme ça des influences américaines dans ton écriture. Je crois que Brautigan a beaucoup compté aussi, non?
Ah oui, plus tard, Brautigan était beaucoup plus important même que Bukowski.
Ouais.
Là, j'ai du mal quand même à lire Bukowski de nos jours.
Ouais.
Je l'ai découvert à une époque, ça a été un déclic. Ça a duré quelques années, mais je lis très très peu Bukowski maintenant.
Ouais. Ouais, quand on est un jeune homme, finalement, il nous donne le droit aussi de boire, quoi.
Voilà,
Non?
exactement. Et après, on passe à une autre étape.
On passe à une autre étape. Il y a cette douceur chez toi qu'on retrouve aussi chez Brautigan. Finalement, une assez grande bienveillance vis-à-vis des êtres humains, je trouve, dans la poésie de Brautigan.
J'aime aussi beaucoup chez lui. Ouais. Puis il y a une sorte de décalage entre finalement de la réalité et sa perception.
Oui.
Mais avec douceur et bienveillance, comme tu le dis, ouais,
Oui.
toujours.
Alors, Brautigan pourrait parfois passer comme ça pour un poète du quotidien. Il y a certains poèmes qui sont tout à fait de cette sorte. Mais c'est un quotidien qui est souvent visité par une fantaisie, parfois même une sorte de surréalisme West Coast assez décoiffant. Ça t'a plu, ça aussi?
Oui, tout à fait. Ah oui, j'aime bien qu'on raconte la réalité, mais qu'on en sorte aussi.
Ouais.
Je veux pas coller complètement au réel.
Ce qui fait que
Donc ça me plaît
parfois une
beaucoup
baleine peut
chez
débouler.
Brodyan et chez d'autres auteurs d'ailleurs.
Ouais. Ce qui fait que parfois une baleine peut débouler dans ton avenue, quand même, à Malakoff.
J'ai pas entendu, excuse-moi.
Je dis, ce qui fait qu'il arrive parfois qu'une baleine déboule dans ton avenue à Malakoff.
Oui, ça arrive.
Ça c'est un poème, je le lirai tout à l'heure. Elle est venue comment l'idée de. Comment il est venu ce poème?
Alors là, je serais incapable de dire comment c'est venu cette idée. Je pense que c'est venu de, tu sais, des informations sur le réchauffement climatique.
Oui.
J'avais dû voir un reportage sur une baleine et puis j'ai imaginé une baleine qui arrivait dans mon avenue, quoi.
Ouais. Alors, la poésie que tu écris, elle est narrative, elle raconte ta vie, tes joies, tes peines, des rencontres plus ou moins étonnantes qu'on manque pas de faire plusieurs fois par jour quand on est un peu attentif à ce qui se passe autour de soi. Et on voit comme ça arriver des figures qui sont souvent des figures humbles. Il y a un clochard punk et son chien, un étourneau, un vieux radoteur. Tu es quelqu'un qui regarde beaucoup autour de lui et qui marche beaucoup. Tu es un piéton de Malakoff aussi.
Comment? J'ai pas entendu.
Je dis, tu es aussi un piéton de Malakoff.
Oui, j'aimais bien. Je le fais moins maintenant, mais c'est vrai qu'à une époque, j'aimais beaucoup marcher dans les rues de Malakoff. Ouais. C'est une
Ouais.
ville encore assez agréable, donc
Ouais. Alors,
elle fait un petit peu campagne au sein de la région parisienne.
ça fait un peu campagne aussi, Malakoff, ah
Ouais.
oui. Hein. Avec des terrains vagues, il en reste encore quelques-uns.
Non, non, ça, il n'y en a plus du
Ça,
tout.
c'est
Maintenant, il y a du
terminé.
béton partout.
Ouais. Dans une interview que tu as donnée à Terracial, tu dis que dans le fond, ce que tu écris, c'est peut-être pas de la poésie. Qu'est-ce que tu voulais entendre par là?
Bah, en fait, j'ai eu énormément de mal à me dire poète, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, j'écrivais, c'est du narratif, donc ça aurait tout autant pu être des petits textes, sans que ce
Oui.
soit forcément assimilé à de la poésie. Donc j'avais du mal à me définir comme un poète, et c'est plutôt des amis comme Jean-Marc Flahaut, François-Xavier Farine qui m'ont dit, mais si, mais t'écris de la poésie. Donc au fil du temps, j'ai fini par admettre que c'était de la poésie.
Aujourd'hui, tu as beaucoup de, tu as des frères en écriture, non? Je pense à François-Xavier Farid, à Eric de Jaeger. Ce livre, par
Ouais.
exemple, lui est dédié. Il y a toute une famille comme ça d'auteurs qui peut-être pourraient se reconnaître sous la barrière de Brautigan, entre autres, Brautigan, mais d'autres.
Ah oui, tout à fait. Parmi la famille, elle est assez large, hein. Il y a
Ouais.
des auteurs que j'aime énormément. Il y a comment dire, tu as cité François-Xavier Farine, Éric de Geiger. Il y a aussi Jean-Marc Flahaut, que j'aime beaucoup.
Oui.
Cécile Géluca, alors je ne sais pas si on peut l'assimiler à Brautigan, mais j'aime beaucoup son écriture. Marlène Tissot.
Ouais.
Muriel Modéli. aussi. J'aime bien Frédéric Oudard. Et puis toute la bande de Lyon, il y a tout un
vivier.
Toute une palette de poètes à Lyon qui est quand même assez vaste.
Hein. Ouais.
On peut avec Thanet Fraction aussi. Alors lui, c'est pas Brötigam, mais c'est un auteur que j'aime énormément, un poète.
Ouais. Des auteurs qu'on retrouve d'ailleurs souvent chez Gros Texte. Hein.
Ouais, exactement, oui. Ouais. Tout à fait.
Tu as le sentiment d'avoir trouvé un de tes un éditeur, un interlocuteur presque avec Yves Vertufel.
Oui. J'aime beaucoup sa façon de procéder.
Ouais. Alors comment tu écris? Comment ça se passe pour toi un poème? Est-ce que tu te promènes avec un carnet?
Le poème vient, je pense. Il y a d'abord une sorte d'inspiration qui arrive. Quand l'inspiration est là, je l'écris. En général, je l'écris assez rapidement, d'une traite. Et ensuite, il y a relecture et réécriture.
Ouais. Alors, tu réécris, en même temps, il y a des choses que tu laisses la place aussi à l'imperfection, tu le dis, ça, à un moment.
Oui, tout à fait, oui. Ouais. Bah, je me suis aperçu, et je pense qu'on est assez nombreux dans ce cas-là, que quand on veut faire trop parfait, ça perd un petit peu de son côté vivant.
Oui.
C'est trop corrigé, même si je suis assez... j'aime beaucoup corriger quand même, je suis assez perfectionniste, mais il y a des moments où je me calme.
C'est un plaisir de travailler le poème.
Oui.
De travailler la patte du poème, oui.
C'est un plaisir et c'est parfois presque une douleur, on va dire, quand on n'arrive pas au résultat souhaité.
Oui. Et quand le résultat est là, pouf.
Voilà, c'est un soulagement.
C'est un soulagement.
Un plaisir, effectivement.
La place de la poésie dans ta vie, est-ce qu'elle a grandi avec les années? Est-ce qu'elle a une fonction finalement dans ta propre existence?
Ah oui, elle a grandi au fil des années. Bah, je me suis remis à l'écriture en fait au début des années 2000.
Ouais.
En rencontrant, tu sais, au début c'était des petits sites. C'est là où j'ai rencontré virtuellement d'abord Éric de Gaguerre, Marlène Tissot.
Oui.
C'était des petits sites comme ça. Et puis au début je m'y mettais un peu en dilettante, on va dire. Et je me consacre pleinement à l'écriture depuis 6 ans, grand maximum.
Ouais.
Alors, et là, maintenant, elle a une place absolument centrale.
Elle a une place centrale. Alors, on te voit vivre, évidemment, dans cette poésie. On voit vivre ta squo, comme tu l'appelles, ta squo marocaine. Ouais. Et puis aussi, hein, il n'y a pas que ça. Il y a aussi une critique sociale qui est très perceptible, notamment dans ce recueil. On voit vivre la société autour de toi aussi.
J'aime bien quand on est un maillon au sein d'un ensemble.
Ouais. Et alors le regard évidemment que tu portes, on se dit que la vie est assez effrayante quand même. Cette place qu'a prise finalement la consommation, le travail aussi, le volume de travail, l'efficacité au travail, etc. C'est assez effrayant, non?
C'est un peu effrayant et bon, il n'y a pas que des moments effrayants. Il y a des boulots que j'ai faits où l'ambiance était plutôt bonne, hein, et je me suis bien plu. Mais c'est vrai que j'aime bien plutôt insister sur le côté effrayant de la chose, le côté absurde, le côté dérisoire. Et ça peut provoquer une certaine forme de colère aussi parfois.
Oui. Bah, heureusement, il y a toujours et très souvent de l'humour hein, chez toi.
Et l'humour. Bah,
on sourit beaucoup, on rit parfois en te lisant.
C'est gentil.
Tu pratiques aussi volontiers l'autodérision, c'est une manière de ne pas trop se prendre au sérieux, de ne pas se faire d'illusions non plus sur soi. Qu'est-ce que...
L'autodérision, c'est aussi ça, effectivement, mais c'est aussi parce que ça traduit un manque de confiance que j'ai depuis très très longtemps en moi. Donc autant passer par l'autodérision, ça, je trouve que ça correspond assez bien à mon caractère.
Ouais, finalement, tu as accepté ce manque de confiance. C'est devenu,
oui, tout à fait.
C'est devenu un argument aussi.
C'est devenu une sorte d'argument, et puis bon, il a diminué au fil du temps aussi. Hein. Ouais. Il a été très prégnant à une époque, il a diminué au fil du temps, parce qu'il y a des personnes qui ont réussi à me donner confiance en moi. Mais, mais il est toujours là en sourdine.
Oui, c'est peut-être aussi bien d'ailleurs.
Sans doute. Ouais.
Thierry. Merci beaucoup. Le prochain livre, donc, tu nous l'as dit, c'est un livre sur la Bretagne, alors sur ton enfance bretonne.
Alors, c'est pas encore sûr et certain, il est en cours d'écriture pour l'instant. Ouais. Le prochain livre, il va sortir chez l'éditeur, chez l'éditrice plutôt de Montrouge, qui s'appelle Voitissé. Et le titre du recueil, c'est Ces souvenirs qu'on emporte. Ça ne devrait pas tarder à sortir normalement.
Très bien, on reste à l'affût. Merci beaucoup.
C'est gentil en tout cas.
On écoute un peu de musique avant de pousser la porte de ton livre à la périphérie du monde. C'est donc paru chez Gros Texte.
Hello, I'm Johnny Cash.
I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. If they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
C'était le mythique, ah oui, le mythique Folsom Prison Blues de Johnny Cash. On devait bien ça au Cowboy de Malakoff, dont nous allons ouvrir, eh bien, le dernier livre publié aux éditions Gros Texte, à la périphérie du monde par la ligne 13 du métro. Quand l'oiseau diurne croise l'oiseau nocturne, au lever du soleil, on devine à leur chant disharmonieux qu'ils ne s'apprécient guère. Il en est de même au coucher du soleil, mais l'interprétation des chants disharmonieux nécessite toutefois une longue, très longue, expérience de l'écoute et des insomnies. C'était une rencontre improbable du haut de quelques arbres. Redécouvrir un endroit familier. Il faudrait pouvoir respirer profondément, claquer la porte sans regret, sentir l'air frais, bâtir de nos propres mains un endroit secret où personne ne viendrait nous trouver. Il faudrait pouvoir prendre la fuite, partir en de longs voyages, quelque part, au hasard, et revenir un jour, peut-être dès demain, au point de départ, en nous disant que tout a bien changé en notre absence. À la mort de ma grand-mère paternelle, il n'y avait pas grand monde. Mes parents, mon oncle, mon frère et moi. Et un vieux qui se disait de la famille, mais s'en était éloigné depuis longtemps. Et puis toi, mon amour, qui la rencontrais pour la première fois et pour la dernière fois, allongée, raide, dans cette chambre froide. Tu l'as embrassée sur le front, selon la tradition, et nous avons ensuite bu un délicieux vin aligoté
et manger de savoureuses moules fraîches. L'ironie du sort voulait que tu sois enceinte, mais on ne le savait pas encore. Où il est question de gagner sa croûte. Deux de mes slips pendouillent sur un fil de la salle de bain avec quelques paires de vieilles chaussettes. C'est ma première expo d'art brut et minimaliste. Je vous propose 2,50€ l'entrée du lundi au vendredi, si ça vous tente. Note pour un oubli possible. La maison de mon enfance se souvient-elle encore de moi? Par une belle journée de printemps, ils sont encore là, eux aussi, assis sur un banc en bois dur du square d'en face. Ils bougent à peine, ils semblent si tranquilles, oublieux du vacarme ambiant, à sasser dans leur langue les vieilles histoires, la vie d'avant, à ressasser fantômes et sornettes. Le temps n'a plus d'emprise. Le temps n'est là que pour mettre un terme à l'exil. Ils se doutent bien maintenant qu'ils ne partiront pas d'ici. Seul l'appel de leur femme pour le repas du soir les tirera du banc, leur évitant la métamorphose définitive en deux statues vues de dos et sans nom. Jack London est bel et bien mort. Peut-être qu'un jour, je fumerai la pipe au milieu des loups et traverserai l'Alaska sur un traîneau tiré par 13 huskies en pleine tempête de neige sans choper la crève. Peut-être même qu'un jour, je tournerai enfin le dos aux galères. Mais ça m'étonnerait, vu que je suis particulièrement frileux et casanier ces temps-ci. Une baleine mérite bien un long titre de poème qui s'écrira plus tard. Descends vite, ils ont besoin de bras. Tu me dis de lâcher ce poème et de descendre pour aider à secourir la baleine échouée dans l'avenue. Une baleine? Oui, dépêche-toi. Ah, c'est donc ça l'agitation dehors. Ok, j'y vais. Bon, de toute façon, mon poème fait du surplace. J'enfile un peignoir, des claquettes, et me voilà dehors parmi les curieux. « Maman, tu crois que c'est Moby Dick ?»« Moby Dick, c'était un livre. Là, c'est la réalité, ma chérie. » Nous sommes une cinquantaine à porter secours à la baleine. Un médecin écoute battre son cœur. « Elle vit encore. Regardez, elle ouvre un œil. » On lève tous ensemble. Allez, 1, 2 et 3. Nous la soulevons avec précaution, nous la posons avec la même précaution dans la remorque du convoi exceptionnel qui la ramènera jusqu'à la mer la plus proche, c'est-à-dire approximativement à 200 km d'ici. Je m'éponge le front, mon voisin déforme tape amicalement dans le dos. « C'est quand même dingue !» je lui dis. « Quoi donc ?»« La baleine, elle a dû prendre un sacré élan dans la mer pour glisser jusqu'ici. »« Bon, ne raconte pas n'importe quoi. »« Ah, je raconte n'importe quoi ?» Bon, puisque tout le monde semble ne plus s'étonner de rien, je vais reprendre mon poème et lui donner un nouvel élan, à lui aussi. Pour commencer, je vais lui trouver un titre. C'est bien la première fois et sans doute la dernière fois qu'une baleine de plusieurs tonnes s'échoue devant chez moi et tout le monde trouve ça normal, comme s'il s'agissait de changer un pneu de vélo. Le petit nuage et la foule. Cet homme a au-dessus de lui un petit nuage sombre qui le suit partout où il passe. Il en retire parfois un Boeing 747 d'une compagnie low cost en pleine turbulence ou un hélicoptère de la station météo dont le pilote a fait un malaise vagal et les fait atterrir de toute urgence hors du petit nuage sombre en agitant les bras à la façon d'un aigle royal qui ouvrirait une foule indifférente ou menaçante ou la mer morte, si l'on croit au miracle, bien sûr, si l'on ne craint pas la folie qui nous guette. Furtive rencontre. J'ai rencontré un poète que j'aime bien. Je lui ai dit « Bonjour, tu es un poète que j'aime bien. » Je n'ai jamais grand-chose à dire aux poètes que j'aime bien, ni aux autres d'ailleurs. Ceci n'est pas un portrait officiel de famille. Ceci est un poème hypersensible qui parle de gens hypersensibles comme l'est ma femme, comme l'est ma fille, ou même comme je le suis encore parfois. Certes, pas autant qu'en 1974 ou en 1997, un peu plus toutefois qu'en 1980 ou en 2011. Je vous raconterai bien les détails une autre fois. Ceci, donc, un portrait de famille hypersensible, écrit à la dérobée, mais nous ne le montrerons à personne, car ma femme trouve qu'elle ne sourit pas assez dans ce poème hypersensible. Ma fille trouve qu'elle a les cheveux en pétard dans ce poème hypersensible. Et moi, je trouve que j'ai de la bedaine dans ce poème hypersensible. Nos reliquats. En fouillant bien la poussière au mur, on y trouverait peut-être trace résiduelle de la première cigarette fumée dans cet appartement. Était-ce à cet endroit précis, devant l'ordinateur? Ça, je ne m'en souviens plus. En tout cas, ce n'est pas loin d'être assez émouvant de se dire que de fines particules du passé auxquelles on n'attachait pourtant aucune importance pourraient avoir survécu aux multiples déflagrations d'une vie. Un fort sens commercial, vous dites. C'est bien payé, mais c'est pas pour moi. L'annonce précise qu'il faut être doté d'un fort sens commercial. Je sors une bière du frigo, je te demande pourquoi je ne suis pas doté d'un fort sens commercial. T'as d'autres qualités, mon amour. Peut-être, mais pas pour l'annonce. T'en fais pas, tu trouveras bien quelque chose. Je bois une longue lampée de bière. Je te demande si tu m'aimes toujours, même si j'ai pas un fort sens commercial. Il n'y a pas que le fric dans la vie, hein? Puis tu approches tes lèvres de mes lèvres. Ta main est posée sur ma queue. Je t'avais bien dit que t'avais d'autres qualités, mon amour. À ce moment-là, j'ai bien voulu te croire, évidemment, et j'ai remisé aux oubliettes toute annonce présente et future à fort sens commercial. Qui t'attend à l'appart? Assise à ton poste de travail, je t'imagine en train de rêvasser, de regarder par l'une des fenêtres l'herbe taillée, arrosée par de puissants jets d'eau, de suivre le parcours précis du jardinier penché sur les lilas, les roses ou les gardénias, de lever les yeux au ciel un instant pour savoir si les nuages ressemblent à quelqu'un que tu connais et d'avoir de fil en aiguille une petite pensée pour moi, puis de te concentrer à nouveau sur les nombreux objectifs de ton planning quotidien après que le chef, revenu de ses statistiques pour une meilleure optimisation de votre travail, ait transmis tout son stress à l'équipe. Je ne peux rien pour toi, mais je suis là qui t'attend à l'appart et me sens inutile. Hiérarchie. On les a placés l'un en face de l'autre. On a cherché à les structurer, à les mettre en concurrence. On a façonné leur comportement, leur façon de parler, de se tenir, de regarder, d'apprendre et de se taire. On a tenté de corriger ce qui ne collait pas. La hiérarchie a dit vouloir le meilleur. La hiérarchie a dit « On ne vous paye pas à ne rien faire ». La hiérarchie a dit « On veut du résultat ». La hiérarchie a dit tout de suite. Alors on les a placés là. Et ça pourrait être vous en face de moi. Une petite extase qui ne paie pas de mine. À certains moments d'une journée, et ces moments sont rares, eh bien les mots consentent à se fondre dans un poème, le plus naturellement du monde, presque sans effort, et de façon tout autant imprévisible, si bien qu'on les croirait sortis d'un nulle part en cours d'excavation. Je les ai nommés, pour l'occasion, impression d'évidence d'un mardi matin, 9h07, puisqu'on est mercredi. Interlude parental. Notre fille est un mystère, un sombre et beau mystère. Elle se confie très peu. Comment deviner ce qu'elle deviendra à mesure qu'elle grandit et s'éloigne? Comment ne pas supposer, surtout, qu'elle se tirera d'affaire mieux que nous, car je n'ose imaginer l'inverse. Et nous sommes d'accord sur ce point. Elle a déjà une conscience sociale et politique bien plus réfléchie que la nôtre. Et ce dernier poème pour terminer. Le grand sourire de Kanté. Je salue l'homme de ménage, venu d'Afrique avec sa femme et leurs 5 enfants. Il n'a pas toujours fait du ménage, me dit-il. Il a fait des études de droit dans son pays d'origine. Mais c'est déjà de l'histoire ancienne. Il range la serpillière au placard. Sa journée de travail ici se termine. La mienne commence. Et ailleurs, continue avec une autre serpillière. Bon courage. À demain matin. C'était quelques extraits de « À la périphérie du monde » par la ligne 13 du métro. Thierry Roquet publie aux éditions Gros Texte. On écoute un peu de musique avant de retrouver Jacques Morin, directeur de publication de la revue des charges Notre Partenaire.
Iyako, zoom in away out. Iyako, zoom in away out. Iyako, zoom in away out. Zoom in away out. Iya, zoom in away out. Zoom in away out. Iya, zoom in away out. Zoom in away out. Iya, zoom in away out.
Lionel Louec, prélude tout vivi. Chose promise, chose due, voici venu le temps d'écouter notre ami Jacques Morin.
Revue du mois audio numéro 52, Le journal des poètes 2, 2020. 89e année, Philippe Maty quitte le poste de rédacteur en chef après 5 ans. Il rappelle qu'il a succédé à des poètes comme Norge, Fernand Vérezen, André Doms ou encore le regretté Jean-Luc Vautier. Il aurait préféré au mot « chef » celui de « coordonnateur » qui lui semble plus approprié. C'est Jean-Marie Corbusier qui le remplace. Ensuite, Gérard Purcell se penche sur l'histoire de la revue et en particulier cette fois sur son positionnement à sa création quasiment en 1931-1932 à l'égard du surréalisme qui était la grande affaire poétique du moment. Cette prise de position de l'un des intervenants contre l'art du scandale, comme puissance publicitaire, ce qui est fort amusant, extrait d'un poème surréaliste de Fernand Marc, par ailleurs animateur de la revue Sagesse 1927-1931. Par un soir antique et muet, quand le scorpion porte sur son dos un soleil très rouge, l'âne blanc broute des méduses. Philippe Maty livre 2 coups de cœur, Michel Fink et le poète portugais João Luís Barreto Guimarães. Puis un gros dossier sur la poétesse Karen Kovacic, née à Indianapolis, mais de double ascendance, polonaise et slovaque. Elle écrit en anglais et est traductrice. Elle remonte ainsi dans l'histoire de l'anglais et de son évolution à travers les siècles Pour en finir, à 2009, Karen Kovacic, ton étrange surnom signifie « pur forgeron » dans la forge des langues, martèle ses vers en anglais. Et ces deux vers dans « La ville portable », mon chaste maillot de bain bleu rêve de chlore. Paroles dans l'archipel égrènent un certain nombre de poètes comme Cécile Bellem. Le rythme de ces feux de joie irrigue de vie ma mémoire au fil des laisses de mer. Judith Chavannes, Jean-Pierre Lemaire avec sa double appartenance au profane et au sacré, tu vois venir la nuit avec ses tentations comme les enfants qui n'ont plus le droit de jouer au jardin après le bain du soir. Béatrice Marshall, qui vient de publier au pied de la cascade à l'herbe qui tremble, s'il reste l'arbre dénudé d'attendre le printemps, les vivants ont-ils encore, enfin, le pouvoir de consoler les morts? Hervé Martin, Richard Rognier, qui aime jouer finement dans ses vers de l'enjambement. Dominique Sorante, enfin, métamorphose sous les yeux du même monde déjà là. William Cliff rend hommage à Walt Whitman dans une biographie en 6 sonnets, la plupart sous la forme de 3 quatrains et un distique final. Il aime aussi bien les rimes, parfois, que les assonances. Étendre, enthousiasmante. Nombre, comble. Loin, fin. Encourir, vie. Et plus loin, sourire, vie. Voir, Californie, Suez. En tout cas, hommages et biographies sont rendus au poète américain par le grand poète belge. Forte partie critique établie sous de multiples signatures, Pierre Jamais en Voix Nouvelle, Gérard Pornel enfin, dans un libre propos, livre sa réflexion sur l'émotion poétique. La poésie se trouve dans le moment où elle est vécue comme émotion. Le journal des poètes, 10 €, mais 4 numéros, l'abonnement pour 40 €, au Tailly près, 23 rue de la Plaine, 6200 Châtelineau, en Belgique évidemment. À la prochaine fois.
Mythique revue que celle du journal des poètes. Vous ferez bien d'y jeter un coup d'œil. Je vous propose de rejoindre à présent notre ami Louis Dubourg, ancien éditeur à l'enseigne du Dé Bleu, poète, qui va nous parler d'une nouvelle anthologie de poésie.
Un petit pays divers contient tout l'univers. Écrivait Jean Rivière, écrivain et philosophe, grand prix catholique de littérature 1970 pour La vie simple, qui vient d'être enfin réédité en 2019, mais aussi agriculteur en Vendée jusqu'à sa mort en 2001. Ce petit pays, c'est bien sûr la Vendée. Un petit pays comme la Wallonie, Haïti, la Suisse romande, le Québec ou le Rwanda de Gaël Faye, dont nous connaissons les poètes et écrivains qui s'expriment dans l'univers de la langue française. Nous avons déjà pu lire des anthologies de poètes wallons, québécois, haïtiens, etc. Mais c'est la première fois que nous tenons entre les mains un gros livre de près de 700 pages intitulé « Histoire et anthologie de la poésie en Vendée », résultat du travail considérable d'Alain Perrochaud, qui a su avec justesse conjuguer intelligence, érudition et sensibilité. Certains esprits, mais le ferait-il à propos du Puy du Fou ou du Vendée des Globes, diront avec condescendance et en haussant leurs œillères, événement local, donc sans intérêt. Certes, on pourrait leur trouver des excuses en cette période de confinement, mais ce serait ignorer ou oublier, comme le souligne Michel Torga, que l'universel, c'est le local moins les murs. Faire sauter les murs et les œillères, c'est une des fonctions universalisantes de la poésie. Et l'aspect local, à première vue réducteur, s'évanouit aussitôt si on cite des poètes comme Agrippa d'Aubigné et Jam Sacré, Gaston Chessac et Claude Aria, Raoul Ponchon et Jacques Charpentreau, Pierre Menanteau et Nicolas Rapin, Cécile Sauvage et Michel Ragon, Jean Thibaudeau et Luce Guilbeault, Jean Bouillet et Patricia Cotron-Aubigné, etc. Car nombre de ces poètes ont déjà leur place dans l'un ou l'autre des 12 épais volumes de la monumentale histoire de la poésie française de Robert Sabatier, publié en 1988. Comment légitimer alors un tel ouvrage qui a demandé une telle somme de travail assidu, méticuleux et bien informé de la part d'Alain Perrochaud, un poète doublé d'un historien? Je crois qu'il faut distinguer deux notions, la singularité et le particularisme, que trop souvent on a tendance à confondre. La notion de singularité signifie le désir, l'ouverture, l'aventure et la tension vers l'universel, tandis que la notion de particularisme désigne le repli confiné, rabougri, étroit et sectaire sur une illusion anecdotique. De sorte que, pour moi, il n'y a pas de particularisme vendéen. N'en déplaise à quelques particuliers à particules qu'il exploite sans vergogne pour ajouter dans un juteux fonds de commerce touristique. En revanche, il y a une bien réelle singularité vendéenne qu'Alain Perrochaud nomme l'âme vendéenne et qui est un reflet, un produit et un parti pris de l'histoire, bien sûr, mais surtout pour ce qui concerne la poésie, de l'histoire de la langue française. En effet, il est bon de rappeler que le département de la Vendée, dans lequel l'auteur géolocalise les poètes qu'il répertorie, est un territoire fabriqué artificiellement et sans état d'âme par la République à ses débuts pour des considérations administratives, économiques, voire géopolitiques. La singularité, ou l'âme vendéenne, transcende donc une diversité établie de fait, voire de force, le petit pays d'hiver dont parle Jean Rivière. Elle est le résultat d'un processus historique produit par les hommes et les femmes qui y vivent, qu'ils soient vendéens de souche ou vendéens par choix. Alain Perrochaud le souligne avec discrétion et non sans pertinence lorsqu'il évoque l'importance de poètes vendéens de souche qui s'en sont allés enrichir la littérature française à Paris par exemple, tel fin 19e siècle Raoul Ponchon, ami et compagnon de route des Richepin, Verlaine, Mallarmé, Zola, etc. Et plus près de nous, Jean Bouyer, fondateur de l'école de Rochefort, ou Michel Ragon, écrivain et critique d'art. De même, des poètes ont fait le choix de s'établir en Vendée, tel au XVIe siècle Agrippa d'Aubigné, venu de Saint-Onge, plus récemment Marcel Chabot, originaire de Paris, ou Gaston Chessac, arrivé de Bourgogne. Les uns comme les autres ont contribué à construire l'histoire singulière, réelle et bien vivante de la Vendée, tout en s'inscrivant sans complexe et avec talent dans l'histoire universelle de la poésie de langue française. Bref, lire les poètes de Vendée, comme ceux de Wallonie, du Québec ou de Suisse romande, c'est donc approcher et entrer dans la richesse et la diversité de la poésie francophone dans son ensemble. Le livre d'Alain Perrochaud en offre un remarquable condensé qu'il faut se procurer absolument et sans tarder. Pour terminer, l'ex-éditeur que je suis tient à saluer le courage de Gérard Glameau, l'éditeur de ce gros livre, qui n'a pas hésité à prendre des risques énormes, intellectuels et financiers, et que la conjoncture pandémique actuelle, à l'instar de tous ses collègues et confrères de l'édition, déstabilise brutalement. Paru début mars dernier, le livre s'est vu confiné dans ses cartons, la promotion et la diffusion empêchées ou fortement ralenties, une présence épisodique dans de rares salons du livre et des signatures en librairie trop souvent annulées. Néanmoins, les contraintes désobligeantes n'interdisent pas totalement de se procurer cette histoire et anthologie de la poésie en Vendée d'Alain Perrochaud. Soit par commande chez les libraires, qu'il faut encourager dans leur résistance et leur persistance à faire leur travail, soit chez l'éditeur, le livre coûte 24 euros, donc l'éditeur Le Jarrossé Édition, 78 Route du Poiré, 85 190 Aizenay, ou par mail, le Jarrossé, alors j'appelle, le LEJARO2SET, le Jarrossé en un seul mot, @gmail.com.
Et oui, Louis Dubois a raison de le souligner, la Vendée ce n'est pas que le Vendée Globe, que le Puy du Fou, c'est aussi un vivier, une pépinière de poètes tout à fait passionnante et à redécouvrir. On laisse passer quelques secondes de musique avant de retrouver l'ami Jean-Claude Touzaille.
Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va essayer de trouver des poèmes un peu drôles, plus ou moins, pour changer d'ambiance un peu. C'est pour ça que je vais vous parler de Roland Bacry. Alors les plus jeunes d'entre vous connaissent peut-être pas. C'était quelqu'un qui écrivait dans le Canard enchaîné, qui envoyait des poèmes, qui est né à Bab El Oued, dans le quartier d'Alger de l'époque coloniale, né un 1er avril, c'est pas un hasard, et qui donc signait dans le Canard Le Petit Poète ou Roro de Bab El Oued. Voilà. Travail propre. Un bombardier bien portant une bombe éclatante de santé, une ville rasée de près. Quand les cigares échangeront de bouche, quand les stars échangeront de main, quand la bonne soupe échangera de douche, qui sait qui sera dans le bottin? Quand les gibus échangeront de tête, quand les bagous échangeront de doigts, quand le homard y changera de fourchette, les employés, on sera les rois. Il faudra plus nous négliger. C'est nous qu'on sera les PDG. Remarquez, même en Rockefeller, je resterai quand même fils d'ouvrier. Qu'un employé à bas salaire, c'est une chose à pas oublier. Oui, mais quand nos cœurs changeront de chaumière, que les secrétaires changeront de genoux, que les sofas y changeront de derrière, qui sait qui changera de bignou? Quand les Rolls changeront de carte grise, quand Maxime y changera de client, quand les smokings changeront de valise, alors dit les gentlemen, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Alors à signaler que c'est aussi une chanson interprétée par Raoul de Godevarzelde, puis plus tard par Loïc Antoine. Alors, une lettre d'amour de Juliette Drouet à Victor Hugo. Elle est un peu fâchée. Mon amour, cette 16317e lettre de celle qui t'aime est la dernière. Je romps. Et cette fois, crois-moi, c'est pour le bon. Tu ne verras plus aussi vrai mon tauteur que je m'appelle Juliette. Je ne suis quand même pas une Josette Drouet pour me raccommoder comme ça. Voilà. Et puis pour terminer, alors c'est à la fois drôle et tragique, comme vous allez voir. Le titre, dithyrambe de lancement. C'est appuyé un peu sur un poème de Verlaine, comme vous allez vite vous en apercevoir. Le ciel est par-dessus le toit, cible si calme, un arbre par-dessus le toit brûle au napalm. La fusée dans le ciel qu'on voit, doucement teinte de rouge et noir, un grand convoi de cris de plainte. Mon Dieu, la vie est là, simple et tranquille. Cette terrible rumeur-là vient de la ville. Espèce humaine que voilà, tuant sans cesse. Dis, que fais-tu, toi que voilà? Je serre les fesses. Voilà pour Roland Bacry. Et puis on va terminer avec un petit poème que j'avais écrit pour... Enfin, qui figure encore dans le livre intitulé Remontant et ricochet chez Soc et Foc. Grivellerie. À l'espagnol auberge, renvoyer l'allemand berger. Et la hollandaise vache au grec calande. Avaler un bulgare yaourt, gober une norvégienne omelette, noter cette écossaise douche dans le tchèque carnet. En Suisse, boire une belge bière, plus un irlandais café. Craquer une suédoise allumette et fumer un cubain cigare. Mettre un mexicain chapeau, pour esquisser une brésilienne danse, taire ses guatémaltèques manquements. Relire les japonaises estampes, à l'italienne le format, joué à la russe roulette et dans l'américaine nuit, filé à l'anglaise. Voilà. Pour aujourd'hui, je vous souhaite un bon reconfinement.
Eh oui, le reconfinement a beaucoup d'inconvénients, mais il a quelques avantages. Par exemple, celui de vous mettre à l'écoute des programmes de Radio Grand Ciel et singulièrement de La Route Inconnue. Avant de nous quitter, j'ai très envie de vous lire un nouveau poème d'Alain Boudet, extrait de son recueil « Quelques-uns » aux éditions Henri, collection « La main au poète ». Il s'agit d'une suite de portraits très très sensibles, très bien écrits. Des portraits de gens souvent très humbles et parfois même ceux qu'on appelle les damnés de la terre, comme Pablo. Pablo, sa lampe au front, comme une étoile, un enfant descend dans la mine. Et c'est la nuit qui entre en lui. Il creuse le ventre dans la terre. Il avance dans les boyaux, à la recherche de joyaux qui ne le rendront pas joyeux. Il porte l'ombre sur ses épaules. Il creuse, il tombe. Il creuse, il va. Le regard sombre. Ceux qui l'attendent à la surface attendent de revoir un visage où deux yeux clignent, où deux yeux dansent d'être encore là. Alain Boudet, extrait de son recueil « Quelques-uns », édition Henri Collection, La main au poète. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente semaine à l'écoute des programmes de Radio Ranciel. On se retrouve dans une quinzaine sur La Route Inconnue.
apologize. I paid the price, taking your advice. I felt it all, just like a cannonball. What you want all day, but I've never been so outraged, and I'm washing my hands of you.